LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Renouveau du cinéma marseillais, Massilia Guérilla. Épisode 3, en bande organisée.
Ici, juste là où on est, il y a des super concerts. Ils installent tout d'un coup vraiment tout un groupe, batterie, tous les instruments ici. Et tout l'escalier est rempli de monde qui écoute, c'est magnifique.
Sur vraiment. Les marches qui mènent au cours Julien, comme ça, là, en plein centre, hop, ils installent des amplis, batterie, guitare, et ça joue.
Depuis 10 ans, un phénomène artistique totalement indépendant explose à Marseille. Vidéoclips, web-séries autoproduites, longs-métrages guérilla se fabriquent sans aide publique, ni chaîne, ni distributeur, loin des radars des médias de la capitale. Un mouvement artistique alternatif né dans la misère des moyens et la nécessité urgente d'exister. Il s'organise en collectif, en bande organisée. Nous allons à la rencontre de la franco-argentine Marcia Romano, scénariste reconnue, diplômée de la FEMIS, réfugiée artistique depuis 20 ans à Marseille, avec son compagnon de route, Benoît Sabatier, critique rock, dans les rues populaires du centre-ville de Marseille, à Notre-Dame-du-Mont, à deux pas de la triste et tragique rue d'Aubagne, qui a vu s'effondrer des immeubles insalubres le 5 novembre 2018.
Quand même, j'ai retrouvé un peu de Buenos Aires. Au final, c'est qu'il n'y a pas du tout la rentabilité de tout comme à Paris. C'est-à-dire, on peut tout à fait glander, passer ses journées à rien faire. Et ça, c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est comme un pays sud-américain. Très bien. Être au café, regarder les gens passer pendant des heures, sans culpabiliser.
Quand j'ai commencé à m'y installer il y a plus de 20 ans, j'ai découvert une ville où tout était possible et où il n'y avait pas tout l'arrivisme de Paris. C'est-à-dire, pour moi, c'était un mélange à la fois de Los Angeles, cinématographique, hein, de Los Angeles avec le ciel, la mer, et d'Istanbul avec le côté ultra bruyant, ultra diversifié. C'était génial comme ça, avec les collines et tout. Donc ce mélange, je me suis dit, c'est trop cinématographique. On va pas filmer les Champs-Élysées toute notre vie.
Alors, Marcia, scénariste de nombreux cinéastes connus comme François Ozon, Emmanuel Berco, Xavier Giannoli, Emmanuel Bourdieu, Audrey Diwan, l'événement qui a eu un Lion d'Or à Venise. Ce qui est étonnant, c'est que malgré le fait que tu es quand même au cœur de l'industrie, tu veuilles faire des films en autoproduction.
Alors, je pense que parce que je suis justement, que je travaille dans l'industrie, et que c'est comme ça que je gagne ma vie, je pense que je sais exactement que ce que nous on veut faire comme film, comme ils le disent eux-mêmes, ça n'intéressera personne. Donc ce n'est pas la peine de s'user dans cette trajectoire de financement qui découragerait n'importe qui, en fait. Et c'est pour ça aussi l'autoproduction, c'est parce que effectivement j'ai conscience que ce qui se fait dans l'industrie et la façon dont sont fabriqués les films aujourd'hui, et de plus en plus, laisse sur le côté énormément de films, en fait, et de réalisateurs, réalisatrices qui veulent faire autre chose.
Je suis rock critique à la base, et ce que j'ai découvert en premier à Marseille, c'est la vitalité incroyable des toutes petites salles de rock. Donc j'ai décidé de rester à Marseille avec Marcia, qui habitait là déjà depuis un bon moment. Et j'ai commencé par faire toutes les salles de rock, et avec Marcia, on a décidé de filmer ces salles en autoproduction de notre côté. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire une trilogie marseillaise axée sur les salles de rock, sur le public de ces salles de rock, qui était un public vraiment sociologiquement très particulier. Rien à voir avec Paris, rien à voir avec la scène hip-hop marseillaise qui était déjà très connue. Et on s'est lancé dans cette aventure de cinéma sur presque une dizaine d'années à filmer les salles, les gens, en montant des fictions.
Axel, 24 ans, un glandeur, un branleur, un crevard, comme les baltringues qui lui servent de copains. Il ne veut pas sortir, il se couche à l'aube. Il ne veut pas tester des salles de bain, il se les enfile.
La morale des troupes, 2015.
Il a un certain succès avec les filles, mais il n'est pas certain d'aimer le succès. Quand Axel, 25 ans, ne marche pas dans les rues de Marseille à attendre qu'il fasse un peu plus jour, il se retrouve dans des salles d'Europe. À 26 ans, il devrait peut-être se chercher un avenir, se trouver une place, un matelas à soi.
Salut Simon.
Ah bah.
Ça va?
Voilà. Un groupe Dissonant Nation à l'époque et qui a continué dans plein de groupes.
Dans plein de groupes justement. Simon qui est dans nos films.
Il me semble que tu joues un dealer, hein.
Non, c'est Loïc ça.
Ah, oui.
C'est Loïc qui faisait le dealer finalement. Ils m'en parlent encore. Ouais.
D'accord. Et là ça va? Tu vas bientôt faire un concert?
Écoute, on va jouer le 5 octobre, on joue au Molotov, je crois. Je suis même pas sûr.
Génial. Molotov,
on a tourné
qui...
au Molotov.
Voilà, beaucoup tourné au Molotov, qui est là. Bon bah, à bientôt.
Okay.
Alors, on est au cours Julien. C'est un lieu central à Marseille où il y a beaucoup de graffiti. C'est devenu une culture hip-hop, mais avant, dans les années 70, c'est vraiment une grosse scène punk rock très forte. Au début des années 2000, il y a eu ce qu'on appelle le retour du rock, qui était un truc qui venait surtout des États-Unis, de Memphis, de New York. Et ce phénomène a été transposé à Paris, mais ça restait extrêmement bourgeois. C'est ce qu'on a appelé les baby rockers. C'était dans le 6e à Paris. Et quand j'ai débarqué à Marseille, je me suis dit, mais c'est fou, c'est vraiment cette culture garage punk qui nous fait fantasmer aux États-Unis et qui existe à Marseille. Et on s'est dit, il faut filmer ça, c'est une vitalité complètement dingue.
Jean-Paul Marseillais, c'est toujours les mêmes soirées, les mêmes têtes, les mêmes endroits. Par contre, putain, cette angoisse de remonter à Paris sans thune, enfin, du moins de ce qui me reste, quoi. Sans taf, obligé de demander à la grand-mère pour avoir un peu de pognon, quoi. C'est pas glorieux, quoi.
C'est bien Paris?
Bah, au moins, quand je reviens, je vais faire croire aux Marseillais que c'est mieux que les galères qu'il y a ici, quoi.
Même ta grand-mère, elle te croit pas?
Il y a toute une cinématographie de « on ne peut pas attendre, allons-y avec ce qu'on a parce que ça va disparaître, parce qu'il faut capter un moment ». Et ça, c'est une sorte d'investissement, parce que ça, c'est quelque chose qui prend de la valeur avec le temps.
C'est deux choses tellement différentes. Il y a d'un côté l'industrie du cinéma et de l'autre le cinéma. Et l'industrie du cinéma, le mot « industrie », c'est un sport de riche, c'est un truc ultra capitaliste. Quand on sait qu'un film coûte en moyenne 4 millions, on se dit, c'est complètement dingue quand on voit tout ce qui sort. Comment ça se fait que ça ait coûté 4 millions? Donc, nous, on a décidé de faire du cinéma, c'est-à-dire laisser côté l'industrie, faire des trucs vraiment qui coûtent pas un sou, axé uniquement sur le cinéma, c'est-à-dire l'esthétique et filmer quelque chose de plus radical et plus axé sur nos envies artistiques, c'est tout. Seul l'artistique compte sur l'autoproduction. Le reste, c'est des broutilles, c'est de la débrouille.
Dans l'industrie, les films, ils naissent ou ils meurent le mercredi à 9h du matin. Donc si on croit à ça, c'est même pas la peine de faire de l'autoproduction parce qu'en fait, nos films, ou ils sortiront pas, ou ils sortiront dans... ils sont morts-nés par définition. Donc en fait, il faut croire à une autre temporalité cinéphilique, disons. C'est-à-dire que, en fait, un film a plusieurs vies.
On s'est dit, tiens, on a cette idée en juin, on l'écrit. En juillet, on rassemble une troupe d'acteurs, on cherche des lieux et on répète. Et en août, on tourne. Et en septembre, on monte. Donc en 4 mois, le film est terminé.
Mais en fait, il faut quand même croire à cette double temporalité, c'est-à-dire filmer sans attendre, mais après attendre, attendre que le film prenne vie, qu'il arrive jusqu'à quelqu'un, jusqu'à un seul spectateur, ou c'est fabriquer très rapidement et puis être patient ensuite.
Il y a une authenticité, vous avez été chercher des jeunes passionnés, rockers, qui vivent passionnément. Il y a un côté un peu presque documentaire dans le film.
Mais justement, là, nous allons visiter la Machine à Coudre, qui était une salle rock mythique, mais qui a fermé au moment de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, parce qu'elle faisait partie des lieux jugés insalubres. En fait, tout est parti, cette trilogie autoproduite marseillaise est partie de lieux qui étaient condamnés. voués à la fermeture. Et on s'est dit, il faut les filmer avant qu'ils ferment, avant qu'ils disparaissent. Donc l'urgence aussi, et il n'y a que l'autoproduction qui peut répondre à cette urgence, c'est filmer avant que ça disparaisse.
On avait affaire à une bande de punks, de zonards, de chômeurs, de 18 marginaux, de 18,
en colère,
très en colère, de 18-20 ans. Et donc on avait affaire à un pendant de la jeunesse des quartiers, qui n'avait rien à voir avec la jeunesse des quartiers, qui était une jeunesse centro-urbaine, mais totalement à la ramasse, en colère, contre le pouvoir, anti-establishment, vraiment... J'avais l'impression d'être à Londres en 1977 pendant l'explosion des Sex Pistols, quoi. C'était des jeunes complètement cinglés, drôles, anti-système.
Et on voulait futur.
À fond, ouais, c'est ça. D'ailleurs, beaucoup ont eu des problèmes par la suite. Là, c'était il y a 10 ans, nous, et beaucoup, bon, il y en a qui sont rentrés dans l'ordre et tout ça, mais c'est des gens qui, quand même, ne voulaient pas rentrer dans le système.
Et un autre grand luxe de l'autoproduction, c'est que ça permet de traîner avec les gens qu'on filme. Parce que un vrai film, disons, ne permet pas du tout. On ne peut pas du tout traîner avec les gens qu'on filme, ni avec l'équipe. On peut traîner avec personne quand on fait un film dans l'industrie, parce qu'en fait, le temps est compté, le temps est rémunéré, disons. Alors que l'autoproduction, il n'y a pas de frontière entre la vie et le film. Et donc, on passe du temps, et nous, pendant cette trilogie qui a duré de 2012 à 2017, pendant ces 5 ans, on a passé notre vie avec les gens qui sont à l'image, parce que c'est les mêmes personnages dans les 3 films.
C'était notre famille.
Et c'était une famille d'amis, et c'était une joie, enfin peut-être un de mes plus grands souvenirs.
On prend la passerelle qui nous amène à la rue d'Aubagne, là où il y a eu des effondrements.
Voilà les immeubles, enfin le trou où les immeubles se sont effondrés.
Et donc la machine à coudre est accoudée derrière.
Donc là c'était en 2018 qu'il y a eu l'effondrement avec des victimes. Là il y a un magasin de frigo, machine à laver. Bonjour.
Bonjour. Ce qui reste de...
Ah c'était là ?
Voilà, de la machine à coudre, un gros cadenas.
Celui qui a un poil dans la main.
Yann,
j'ai bien cru que tu finirais comme eux. Franchement, Paris, ça te va mieux.
Ah, tu sais que... Enfin, je les vois plus vraiment, quoi, mais... Ils doivent bosser, Enfin, j'ai plus vraiment de contact avec eux, mais bon... Enfin, dans tous les cas, ils sont obligés de un peu bosser, parce qu'à Paris, faut se démerder, quoi. Enfin, faut se débrouiller, quoi.
Des gougnafiers... Des fifres. Sans tambourin, tes copains. Des tremblants, des niafrons.
De toute façon, même si je voulais les voir, je pourrais pas, quoi. J'ai un taf qui me prend tellement de temps à l'hôtellerie, à l'hôtel. J'ai été promu manager, quoi. Je me démerde vraiment bien, quoi. Enfin, je me débrouille vraiment bien, quoi. J'ai plusieurs personnes à mon... Enfin, je suis le boss, quoi. Ils aiment bien mon style. Enfin, je suis au top, quoi.
On est parti sur une trilogie. Le premier, c'était Le moral des troupes. On voulait faire l'histoire d'un mec jeune qui avait des petits problèmes d'addiction et qui décidait de se tirer de Marseille. Et c'était sur une nuit et il allait dans toutes les salles de concert. Et au petit matin, il décidait de surtout pas se tirer de Marseille. C'était trop bien.
Donc 2012, 2013, 2014, c'est le premier. Et après, comme on savait comment on faisait, c'était 2015 un autre et 2017. Mais en gros, le premier, on l'a fait en 3 fois.
Donc... Comment vous avez réussi à mobiliser les troupes, justement, pendant 3 saisons ?
Bah, je te dis, comme c'est devenu vraiment des amis, chaque été, ils attendaient, ils disaient « quand est-ce qu'on tourne ?»
Vous voulez qu'on prenne un autre chemin ? On peut prendre un autre chemin. Mais là, on peut remonter par là, non ? Parce que là, c'est...
Et donc, quand vous faites la morale des troupes, vous essayez de le rentrer dans les festivals, dans le réseau, les distributeurs
Ils ont été montrés à des festivals, mais très niches.
À chaque fois, on a eu des prix dans quelques petits festivals du style cinéma d'autoproduction, cinéma brut.
Cinéma brut qui n'existe plus.
À Marseille.
Fame, Film and Music Festival, des trucs comme ça.
Eux, ils disaient, justement, parce que c'est de l'autoproduction, il faut la meilleure salle du monde pour le projeter. C'était leur combat. C'est pas parce que c'est de l'autoproduction qu'il faut un drap accroché au mur et un projecteur. Pas du tout. Ils disaient, justement, il faut les tirer vers le haut par des conditions de projection optimales. Et en fait, aujourd'hui, pour inscrire un film, on envoie un lien. Donc les gens regardent 3 minutes, ils voient que c'est cheap, que c'est fauché et qu'il n'y a pas d'acteur et ils passent au suivant. Et donc je trouve que la sélection par lien pénalise encore plus qu'avant l'autoproduction.
C'est vrai que le premier, j'en revenais pas qu'il soit pas pris par l'industrie, mais j'ai tout de suite compris que l'industrie c'était un tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas te ramener avec une autoproduction et chercher un distributeur. Parce qu'un film, quand il s'inscrit dans l'industrie, il doit être dès la base, dès l'idée, développé par l'industrie. Autrement, surtout pas, elle n'en veut pas. Non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Gardez-le vous. C'est ça.
D'ailleurs, l'autoproduction, enfin, telle que nous, en tout cas, on l'a pratiquée, elle n'a rien de séduisant pour un producteur. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'acteur connu. Et puis, il y a une idée aussi que dans l'autoproduction, il n'y a pas de scénario. Que c'est un peu genre à la va comme je te pousse avec les gens qui passaient par là, etc. Il y a cette idée, donc voilà, pas l'idée du tout qu'il y ait une réflexion ou un travail en amont. La très très mauvaise nouvelle, c'est que les producteurs maintenant adorent le développement. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, je me souviens, c'était nous rendions un scénario, le producteur vous disait c'est pas assez bien, il faut que tu retravailles. C'était tout. Et on repartait avec la copie et on revenait. Alors que maintenant, le problème, c'est qu'ils adorent le développement. C'est la partie de leur travail qu'ils adorent. Les réunions de développement ligne par ligne. C'est devenu le cauchemar du scénariste et des auteurs-réalisateurs et des autrices-réalisatrices. Pas que des scénaristes. C'est devenu le cauchemar de tout le monde parce que la passion des producteurs est maintenant le développement. Vous êtes à la version 28 ou 72 et ils vous disent « Viens à 9h, on commandera à manger. » Et nous, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à l'heure du déjeuner puisqu'on en est déjà à la version 72 ?» Mais non, c'est ligne par ligne. Et puis machin m'a dit, ils font lire à tout le monde. Donc, mais bon, c'est la phrase que j'adore de Dorothy Parker qui a vraiment... vécu un cauchemar à Hollywood en tant que scénariste et qui a dit « Le scénario est une fille que tout le monde tripote ». Et c'était mieux le temps où personne la tripotait, quoi. Et on pouvait travailler.
Il y a un business qui s'est monté sur les manuels de scénario et il y a des grands auteurs de manuels de scénario américains qui viennent faire des stages en France. Quand tu vas dans ce genre de truc où j'ai pas mis les pieds, il paraît que tu ne vois que les producteurs qui prennent des notes et après qui vont faire chier les scénaristes sur les scénarios. Quand tu vois le système de studio américain, c'est très compartimenté, tel scénariste, tel réalisateur, tel producteur. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde veut se mêler de tout, étant donné qu'en France, le scénariste est réalisateur. Maintenant, le producteur se croit scénariste et tout ça. Et il ne s'occupe pas seulement des finances du film, il veut s'occuper d'artistique.
Je pense aussi que c'est une façon, ça je l'ai beaucoup vu les dernières années, de retarder le moment de sortir du bureau. C'est-à-dire que le projet reste de plus en plus longtemps dans le bureau et ne sort qu'à la toute dernière minute pour aller chercher du financement. Et en fait, quand nous, on croit qu'on a fini notre travail, c'est le début des emmerdes, parce qu'à partir du moment où il sort, il y a tout le monde qui s'y met. Un autre réalisateur avec qui j'ai travaillé, Mathias Gokalp, me disait toujours « Les problèmes de scénario s'arrêtent quand un acteur connu a dit oui. » Là, il n'y a plus de problème de scénario. Alors, j'ai fait 6 ans comme responsable de développement dans des bureaux, donc je le sais de l'intérieur. Donc j'ai été 2 ans chez Georges Benayoun, après 2 ans chez Fidélité, et après chez Slot Machine. Et en fait, le développement est une façon de gagner du temps aussi. C'est-à-dire que en fait, les producteurs jonglent entre plusieurs guichets. Ils ont trop de projets par rapport au nombre de guichets de financement. Et donc, repartir en développement, c'est faire patienter les auteurs en attendant le bon moment pour présenter ce projet-là dans un guichet.
Il Alors, Photogénico, de quoi ça parle? Un disque et ses conséquences? Un son d'entre les bords. La musique, un cri de l'intérieur. Le héros, Raoul, largué à Marseille. Ça va cogner, pastis brut à Cap Canaille. Donc, cette comédie noire, en quête du courju à la pointe rouge et en slip rouge.
Parlons de votre dernier film, qui a été sélectionné au Festival de Cannes à l'Acide. C'est Photogénico.
Ouais, c'est l'histoire d'un homme qui arrive à Marseille un an après la mort de sa fille, avec tout un tas d'adresses. Il voudrait savoir quelle était sa vie avant sa mort. Et là, il va découvrir qu'elle a enregistré un disque avec un groupe de filles. Et en fait, ce disque va ouvrir un monde marseillais. Et il va essayer de remonter ce groupe, alors que ses filles ne se voient plus depuis cette mort tragique. Et voilà. Et donc, il a une obsession, c'est remonter une fois le groupe avant de repartir.
Alors, c'est un film qui est produit, mais plus qu'une affaire de production, ce qui change pour nous dans ce film, c'est qu'on a voulu aussi montrer l'évolution de Marseille musicale et Marseille-Marseille. C'est-à-dire que nous, quand on filmait à la machine à coudre, c'était une scène quand même très de mecs qui buvaient de la bière et qui se tapaient dessus. Alors que Marseille a tellement changé ces derniers temps, on s'est beaucoup ouvert au fait que maintenant ça s'est énormément féminisé. Toute l'arrivée d'une nouvelle culture LGBT a vraiment beaucoup changé la ville en bien, et on a voulu aussi montrer cette évolution de Marseille.
Et donc, nous, ce qui nous plaisait, c'était la musique, c'était un monde marseillais musical. On nous disait, mais les films sur la musique, ça intéresse personne. Les gens fuient les films sur la musique, c'est repoussoir, etc. Et en fait, au bout de ce développement interminable, comme il n'y avait pas plus d'argent en enlevant la musique qu'en la remettant, du coup, avant de tourner, on a tout remis comme on aimait et on a fait le film qu'on voulait.
Ça change. Là, vous avez démarché un producteur ?
Oui, là, nous avions un producteur. Voilà.
Et pourquoi alors ? Pour sortir de cette invisibilité des films ou...
Alors, c'est parce qu'en fait, il avait vu le moral des troupes et il s'est dit, faisons ça en bien, en résumé. Mais entre le moment où on a commencé à écrire et le tournage, je dirais que le monde du cinéma a beaucoup changé et que ça s'est beaucoup radicalisé sur les acteurs connus, sur l'argent à l'écran, etc. Donc, le rêve commun de faire un moral des troupes en bien... n'était plus possible
dans le système.
Et du coup on l'a tourné avec un financement ultra réduit, 400-450 000, et ce qui changeait pour nous, c'est qu'au lieu d'être 5, on était 20 dans l'équipe, mais autrement il n'y avait pas énormément de changements. On était dans la débrouille où on était très proche de chaque corps de métier, c'est-à-dire que il y avait quand même quelqu'un qui s'occupait des costumes et des décors, mais on était toujours là à gérer un peu tout. Hein.
Nous nous dirigeons vers la boutique rock, le Lollipop, à la rencontre de Stéphane Signoret.
Début des années 90, déjà, trouver un concert à Marseille, moi je viens des quartiers nord, c'était inimaginable, c'était c'était semé d'obstacles, quoi. C'était toujours compliqué, donc ça a quand même pas mal évolué. Il y a eu vraiment le Do It Yourself qui est venu par-dessus. Maintenant, il y a vraiment une scène rock qui est vivace et très talentueuse, quoi. Ça mériterait plus. Saint-Henri-l'Estac. Ouais.
Voilà. Quartier des Dijon.
Voilà, c'est ça. On a mis, quand il y a eu Marius et Jeannette, on a mis l'Estac sur la carte, on savait où c'était maintenant.
Je crois que dans un de votre film, il y a la question d'un groupe de rock qui disent, il faut qu'on monte à Paris, on va abandonner nos amis. Il y a le même enjeu dans les films de Guédi Dian, au début. Ouais. C'est monter à Paris pour réussir dans l'art ou pas.
C'est oui. Ça, parce que c'est ce qu'on a remarqué, tout simplement. Il y a beaucoup de groupes marseillais ultra talentueux, et pour passer l'étape d'après, il fallait intégrer l'industrie musicale. Et pour intégrer l'industrie musicale, il fallait aller à Paris. On connaît des groupes qui sont carrément allés à Paris, comme Aline. Mais c'est très rare. Autrement, les groupes préfèrent rester à Marseille. Et comme le dit Stéphane, continuer dans le do-it-yourself. Bon, l'industrie, les grosses maisons de disques, c'est Paris. Et ben, c'est pas grave. Nous, on va continuer de se battre pour la musique qu'on aime à Marseille.
J'aurais aimé avoir le bac, aller connaître un crack et faire de grandes études d'économie à la fac. Mais j'ai fini dans le bloc, insulté par le proc, insulté par une équipe en giro qui roule à 4. Y'a du moins un SAV3, vas-y prends du kill de frappe. Seulement de cette manière que j'ai appris à faire des maths. Ton sera pas aux toilettes, le lendemain on te rate.
Direction les quartiers nord de Marseille, à la rencontre de Julio Ibora, près de l'Estac, où il a installé sa société de production Drive By. Julio vient de réaliser son premier long métrage Microbe en autoproduction, avec ses propres économies et l'appui d'amis techniciens et comédiens qui croient en son pari poétique, ancré dans l'expérience de la jeunesse marseillaise. Après avoir co-réalisé la web-série du rappeur Sosomanes, mise en ligne directement sur YouTube et qui totalise près de 21 millions de clics, son film a remporté le grand prix du meilleur long métrage au Miami Urban Film Festival et cherche aujourd'hui un distributeur.
Drive-by alors, c'est quoi ?
Ça veut dire, c'est quand tu tires depuis un véhicule, quand tu tires depuis une moto, depuis une voiture. Et avant, c'est, nous, le logo, c'est un T-Max qui tient une caméra. Tu vois, c'est deux tireurs, mais sauf qu'au lieu d'avoir une arme dans les mains, ils ont une caméra. Et c'était l'identité marseillaise, tu vois. Maintenant, ça se fait plus avec des voitures, mais avant, les règlements de compte, quand tu penses règlement de compte marseillais, c'était vraiment deux mecs sur une moto. Et nous, ça allait avec notre identité de... On vient, on shoot, on repart, tu vois. Shoot dans le sens tourner aussi, tu vois.
Là, on est où, là, alors ?
Là, on est dans nos bureaux. Un bureau de production qui s'appelle Drive By. On est à l'Estac.
Ça, c'est une voiture de police qu'on a fait faire exprès pour mon deuxième court-métrage qui s'appelle D'un feu sans fumée, où ça parle d'affrontement entre un réseau de drogue et la police. Une petite scène où il y a un affrontement. Et en fait, vu qu'il n'y a qu'un seul loueur sur Marseille avec qui on bosse souvent, qui s'appelle Bruno, qui a toutes les voitures de police, qui n'était pas disponible à ce moment-là, on a été obligé de fabriquer une voiture en 24 heures. Du coup, ça a été fait 100% maison. Du coup, on l'a gardé.
Vous avez fait ça comment ?
On est parti, on a envoyé trois collègues. Un qui est parti acheter un Scénic sur le Bon Coin, l'autre qui est parti acheter un gyrophare de pompier. Après, on l'a teint en bleu. Et après, on l'a fait floquer un ami à moi, carrossier, qui avait déjà floqué des voitures de police pour une série Netflix ou un truc comme ça. Du coup, il avait toujours les gabarits.
Système D, quoi.
Voilà, système D à mort. Hein.
Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Salut. Salut.
Salut. Salut.
Là, vous montez.
Non, on prépare le prochain clip. Voilà.
Toi, tu fais quoi ?
Moi, j'ai une boîte de prod et je produis les clips de Cello, en fait, parce que c'est un artiste très prometteur.
Toi, du coup, toi, t'as grandi à Marseille ?
À Aix.
Aix ?
Oui, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, à peu près. Donc,
Dèche.
La chaîne Ancien.
Donc, du coup, t'as fait combien de clips ?
En tout ? J'en suis. Même plus, maintenant. On reste entre 150 et 200, je pense, facilement.
Et on gagne sa vie comme ça ?
Depuis 6 ans, oui. Je me suis vraiment mis en mode. Avant, j'avais un boulot à côté. Et il y a 6 ans, j'ai monté ma boîte de prod et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai lâché mon boulot, je suis parti et ça a bien marché. Chose du bois. On vit encore, quoi. On est encore là, voilà.
Et du coup, toi, tu fais pas que des clips, tu fais aussi. T'as fait la série de Koffs, c'est ça ?
C'est ça.
Tu peux en parler un peu ?
Je connais Koffs d'avant qu'il soit. Justement, je faisais des clips pour lui. Et il m'a proposé de faire la prod déguisée de toute sa série qui est sortie, qui s'appelait Après Minuit. Donc, un 45 minutes. Donc, on a produit ensemble, il a réalisé. Non, vraiment, c'est un beau petit projet qu'on a mené à bien.
Autoproduit.
Après Minuit,
série de Kovs 2024.
La famille, merci beaucoup. Ça fait plaisir de jouer à la maison. Bonne soirée, les gars.
Est-ce que ça t'intéresse de réaliser des films, des longs métrages ?
Je suis sur l'écriture de mon long métrage. C'est en écriture, je ne peux pas en dire plus.
Mais du coup, toi, tu te vois faire un long métrage avec des sous ou tu y vas en mode guérilla ?
Ben moi, justement, je ne voulais jamais me lancer dans avant la série de Kovs parce que je ne voulais pas le faire avec peu de moyens.
Dèche.
Et des personnes m'ont montré qu'on pouvait faire avec peu de moyens aussi des petits courts-métrages et c'est les idées qui priment. Et moi, justement, mon projet, ben, je compte adapter si j'ai pas une prod derrière pour pouvoir faire un vrai truc en termes de long métrage, les courter en court métrage pour essayer justement d'aller chercher des prods derrière intéressés sur le projet, quoi.
Et qu'est-ce que tu penses du travail de Julio ?
Moi, je suis totalement fan de la détermination et l'envie et la vision qu'il a à son âge. J'avais pas le quart ou le dixième des cojones, comme on dit, pour vraiment se lancer comme ça et faire les choses. À bout de bras, quoi, parce que vraiment c'est phénoménal le travail qu'il a là-bas et la motivation qu'il a et la détermination, vraiment c'est incroyable, vraiment. Voilà, il est dans mon cœur et il le sera pour toujours, il le sait. Voilà, on est tous les trois, ça fait 3 ans qu'on est ici et on bosse chacun dans nos catégories et on s'entraide, on travaille sur des projets ensemble des fois, on s'envoie les clients qu'on peut pas gérer, etc. Non, ça motive.
C'est quoi le déclic du cinéma pour toi ?
En fait, c'est depuis tout petit. Je ne me rappelle pas d'un temps où je ne voulais pas faire ça de ma vie.
Julio Ibora.
Depuis tout petit, moi, c'est mon père qui montrait des films de Scorsese, tout ça, tu vois. Taxi Driver et tout. La Haine, c'est des films que, tu vois, que, on va dire des classiques. Moi, j'ai vu quand j'étais petit. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je veux faire ça de ma vie. C'est depuis, je ne me rappelle pas, même depuis vraiment mon enfance. Mais je savais que j'allais aller là-dedans. J'ai pas eu d'autres. J'ai jamais eu de plan B en fait. Je me suis toujours dit je vais aller là-dedans, mais j'avais pas de plan précis. Moi, quand j'ai sorti du lycée, on va dire j'étais beaucoup dans le sport, dans les sports de combat, tout ça. J'étais en équipe de France. Du coup, j'avais une petite fenêtre pour aller dans ça.
De France de quoi ?
De jiu-jitsu brésilien. Et du coup, j'allais beaucoup à Paris, tout ça. Mais moi, je sais qu'il n'y avait pas d'argent forcément à faire là-dedans. Il y avait pas de. Et franchement, c'était en comparaison avec ma passion pour le cinéma, c'était pas comparable. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un peu de fac, j'ai arrêté. J'ai arrêté au bout de 2 semaines parce qu'on faisait des cours de latin, des cours de phonologie, tout ça. Du coup, c'était pas du cinéma. Du coup, j'ai fait vigile, moi, pendant 1 an. Et ça m'a permis d'économiser pour payer les AIS, où j'ai fait BTS montage. Après ça, moi, le déclic, ça a vraiment été le stage. C'est que, moi, je voyais tous les clips de mes rappeurs préférés à l'époque, qui étaient tournés par une boîte qui s'appelait Beatbounce. Du coup, j'ai trouvé l'adresse, je suis allé en bus, j'ai toqué. J'ai dit, vous prenez le stagiaire, ils m'ont dit, on n'a jamais eu de stagiaire, viens. Moi, j'étais fan, je venais en scooter, je faisais 50 km, je venais tous les jours. Ils m'ont pris un stagiaire. Après, j'ai prolongé mon stage. À l'issue de mon stage, ils m'ont dit, si tu veux venir quand tu veux, tu viens quand tu veux. Du coup, je venais observer, je venais. Moi, en parallèle, j'ai tourné une série qui s'appelait Drive-By, justement, où en fait, on mettait en scène un peu à la manière des clips de PNL. Il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de prise de son. C'était vraiment tourné à l'arrache, c'était des épisodes, on les tournait 2-3 fois, on les retournait entièrement tellement c'était médiocre, à fur et à mesure on se faisait la main. Et en gros c'était l'histoire à chaque fois d'une personne dans un quartier de Marseille qui se fait tuer, et on voit les heures qu'elle s'affiche et c'est le temps qui lui reste à vivre. Et donc c'est moi qui jouais, je tombais par terre, tout ça, on tournait à Félix Piat, à la Soli, on tournait à la Bricard, à Herbel, on a tourné dans plein de quartiers. À chaque fois c'était un épisode, un quartier. Et à la fin la personne mourait, elle se faisait tuer, toujours par le même personnage. À la fin, le but c'était de faire un long métrage qui expliquait pourquoi toutes ces personnes sont mortes. Et c'était vraiment ça le concept. Au final, on a commencé à tourner ce long métrage-là. Donc vraiment, j'avais 19 ans. Du coup, j'avais la chance d'avoir les grands frères de Beatbounce qui me prêtaient du matériel. J'avais plein de gens qui me donnaient la force. Mais nous, ça s'écrivait presque au jour le jour. On venait, on arrivait à avoir un tel qui ramenait une Porsche, un tel qui ramenait un bateau. Après, on allait tourner dans un quartier. Lui, il venait pas parce qu'il pouvait pas, l'autre il s'est pas réveillé, l'autre il rentre en prison. Du coup, nous, tout l'arc narratif, il changeait tout le temps parce que les personnes, ils pouvaient plus être dispo. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a jamais sorti. Tout le monde me boude par rapport à ça parce que je l'ai jamais sorti. Mais on a eu.
Pourquoi ?
Parce que c'était, au moment où on a commencé à l'achever, c'était trop une grosse différence entre ce qu'on était capable de faire à l'heure actuelle et avec ce qu'on faisait avant.
Et comme je t'ai dit, il y avait des amis à moi qui sont rentrés en prison, qui ont pris 4 ans, qui avaient un rôle principal, donc c'était très compliqué. Même si on a réussi, j'avais en tête, moi, que je suis très têtu, donc je me suis dit, je vais prendre une capuche, il va tourner de dos, on va masquer le fait qu'il soit pas là. Mais au final, on l'a pas sorti pour toutes ces raisons-là. Mais par contre, ça a été formateur, extrêmement formateur, parce que moi, après, j'ai pas eu peur de m'envoyer sur des 20 minutes, des 30 minutes, parce que je me dis, j'ai tourné 2h30. Et justement, pour alimenter, pour faire ce tournage-là, moi, je faisais Iberit à côté, je faisais des clips, je vendais des habits, je faisais plein de petites, de la débrouille pour réinjecter 100% des sous que je pouvais gagner dans ce projet-là, pour payer l'ingé son qui venait de jour, pour négocier les tarifs, pour tout ça en fait. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tu apprends tous les postes. J'ai des photos encore où on prenait une palette en bois, on l'a sciée, on vissait des roues, ça nous faisait un travelling, d'entrée vallon, on roulait dans la coursive, ou une poubelle, ça nous faisait une easy rig, on fabriquait des trucs nous-mêmes. Et on avait quand même des aides, des gens qui nous prêtaient du matériel et tout.
Regarde-moi ça.
Saint-Laurent, 2020.
Heureusement, il y en a un qui a un peu de cervelle. Sérieux, moi, ça y est, j'ai passé là, je crois, je vais guetter. Et le foot, alors? Centre de formation, ça dit quoi? Mais je vais plus de fils de pute.
Tu aurais pu être la star du quartier. Tu le sais, en plus. Mais non, tu préfères rester là, rien faire avec tes collègues.
Peut-être qu'on n'a pas les mêmes objectifs.
Alors, c'est quoi tes objectifs à toi?
C'est pas ton problème.
T'as raison, c'est pas mon problème. C'est le tien. Mais si tu ne bouges pas, y'a rien qui va arriver. C'est pas en restant comme ça, là.
Comme ça, comment? Tu sais même pas ce que je fais de mes journées. Tu es là, frère, tu viens tous les 100 ans, toi et lui. Arrêtez! Voilà, vous savez pas ce que je fais de mes journées. Ça y est, mon frère, voilà que tu es un étranger pour moi.
C'est quoi l'étranger? Il est là pour toi si tu as besoin. Donc si tu veux trouver un travail, une formation, même un club de foot, n'importe quoi, tu sais qu'on est là.
Toi, vas-y. Merci. Salam.
Marseille, c'est une ville avec une mentalité différente, contrairement à d'autres banlieues, mais le crime, il est présent partout à Marseille. C'est-à-dire que les gens, en fait, la première source de réussite, ça va être ça. Ça va être la délinquance. Alors que je pensais, après, je suis pas... J'ai vécu un petit peu à Paris, mais je connais pas bien comme un Parisien. Mais je pense qu'il y a peut-être des portes un peu plus ouvertes à Paris qu'à Marseille. Marseille, si c'est la délinquance ou pas grand-chose. Tu vois, c'est ça qui est la réalité. Et c'est pour te dire, je vais réussir dans ma vie dans le cinéma, faut y aller. Tu vois, faut en faire des films pour te dire, je vais réussir dans ça. Parce que même j'en vois des petits qui ont tourné dans 2-3 films, ça remplit pas le frigo. Ils ont tourné, ils ont eu un petit peu, quelques cachets, quelques jours par-ci par-là. C'est beau, ça leur fait IMDB, Allociné, ils existent, mais tu rentres pas ton frigo. Donc c'est dur d'expliquer ça aussi. De leur dire, ouais, non, t'inquiète, préserve-toi, te va pas n'importe où. C'est dur d'expliquer ça. Comment tu veux lutter? Le petit, il faut bien qu'il remplisse son frigo. C'est la vérité. En fait, faut être patient. Faut être patient, sauf qu'on est dans une époque maintenant, 2024. Va dire à un jeune d'être patient. Ça existe plus. C'est plus possible. Encore nous, pourtant, je suis jeune, hein, mais je vois une différence entre ma génération là et la génération de 17-18 ans. Faut tout maintenant, tout de suite. Si tu vas pas tout de suite, ça sert à rien.
Tu penses que on t'aurait pas donné ta chance pour un premier long?
En fait, c'est qui va me donner ma chance? C'est ça le truc. C'est que je vais aller voir qui? Je vais aller, je vais toquer, ouais, j'ai ce projet. Impossible. Ils vont pas le lire. En fait, ce qui va peut-être intéresser des boîtes de prod de Paris, c'est de voir Marseille, l'envers du décor, les quartiers, tout ça. Ça peut beaucoup intéresser, je pense. Mais ils vont dire, t'es qui, t'as fait quoi? C'est tout. Moi, c'est pour ça que j'ai fait mon film. C'est, t'as fait quoi? T'as rien fait. Pourquoi on va te donner la responsabilité? C'est compréhensible. Mais pourquoi on va donner les rênes d'un film? On va te confier 3 millions à toi, t'as rien fait. Qu'est-ce qu'on sait que tu vas te réveiller, tu vas pas boire la veille, tu vas pas, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on sait que ta vision, on te fait pas confiance. Au mieux que j'aurais pu espérer, c'est qu'il rachète, si vraiment j'ai une bête de scénario, il rachète mon scénario, me donner 20 000 euros, et encore. Et après, ils vont mettre un réal, un producteur, et après, tu perds ton bébé. Moi, je suis pas particulièrement fier d'avoir fait comme j'ai fait. C'est juste un moyen parmi tant d'autres. J'aurais aimé, moi, le faire correctement, qu'on me dise, ah ouais, ton scénario, il est bien, viens, on le coécrit. Ok, on va débloquer, on va lever des fonds, on va faire un plan de financement, ça va se passer comme ça, et tu tournes dans 2 ans. Mais moi, déjà, j'étais hyper actif, j'avais besoin de tourner dans 3 mois tout le temps. On me disait, arrête, c'est pas comme ça, tu vas faire de la merde. Tourne dans 1 an, 2 ans, attends d'avoir bien peaufiné. Moi, je tournais direct, j'avais besoin de tourner rapidement. Je montre aussi, on est capable de pas faire que des histoires qui parlent des réseaux de drogue, tout ça, qu'on peut parler aussi d'autres choses, mais qu'on a cet ADN-là, qu'on reste quand même dans ça, mais qu'on peut parler d'un enfant, que ça peut être plus poétique, ça peut être une relation avec la mère, ça peut être un rapport avec la fugue, pourquoi un enfant il traîne dehors, faire des réflexions un peu sur les âges de l'homme. On peut faire des choses différentes, mais on reste quand même rattaché à ça, et je sais que j'ai encore beaucoup d'histoires à raconter qui se passent ici, et je pense que toute ma vie j'aurais envie de raconter des histoires qui se passent à Marseille. Et voilà.
Le toboggan, il est énorme.
La piscine aussi, elle est incroyable.
J'imagine genre le bateau, c'est amusant.
Moi, ce soir, je fugue. Celui qui veut venir, il vient. Moi, je vais pas passer ma vie à vous attendre. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai tout le plan dans ma tête. Mon oncle travaille sur le port. Je sais exactement comment on va faire. Bon, qui vient?
Moi.
Microbe 2024.
Promis craché.
Est-ce que tu vois autour de toi d'autres réalisateurs qui font comme toi, qui font des films en indé?
Mais ouais, c'est en train de se... Ça fait plaisir parce qu'en fait, moi, souvent, je me retrouve... Moi, comme on m'a aidé, je me retrouve à souvent faire pareil, à avoir des contacts qui m'envoient des messages ou des amis. Ouais, j'ai un petit jeune, il veut faire son court-métrage, tu peux lui débloquer une caméra, tu peux lui... Je sais que t'as des réductions chez tel loueur, tu peux lui... Moi, je suis dans ça à mort. Ça veut dire, moi, comme on a fait pour moi... Je me dis, ok, ouais, tu me prêtes le zoom, je dois faire du son, tu me prêtes ça. Est-ce que tu peux me brancher avec cet acteur-là ou sur... En fait, on cherchait tous les moyens possibles. Moi, des fois, j'envoyais un ami à moi avec un téléphone, attraper un rappeur parce que je savais qu'il tournait un clip. Il lui passait un téléphone, je disais, oh, on va tourner une série, est-ce que tu peux venir? En fait, on était vraiment dans le culot. Et moi, là, j'en vois plein qui sont dans cette démarche-là. Et ça fait que s'accroître avec, en plus, maintenant, il y a plus d'écoles, donc plus de jeunes, des gens qui viennent aussi de toute la France à Marseille pour faire du cinéma, faire de la musique, faire de l'art. Et ouais, c'est en train d'aller dans tous les sens.
Moi, je suis pas toi, moi.
Comment ça, tu suis pas moi?
Moi, je vais pas aller sucer les clubs de Marseille ou je sais pas quoi, juste pour être dans le truc. Toi, si tu as l'habitude de faire ça à la brigade, fais-le.
Ah! Oh, n'oublie pas de sortir de mes couilles, hein!
D'un feu sans fumée, 2022.
Tiens pas la brigade, tu crois que tu seras habillé comme ça, là? Hein? Tiens pas la brigade, tu crois que tu aurais la plaie, les téméniques et tout? Tu n'aurais même pas de quoi manger, espèce de fou!
Tu crois que j'ai besoin de toi pour manger?
Ah, tu me fais l'homme! Ça va. Écoute-moi. Si Jérôme, il m'appelle, il me dit tu n'es pas venu à l'entraînement, Wallah, tes affaires, je les jette. Change la serrure. Et tu vas chez ta mère, on va voir si elle va t'ouvrir la porte, si elle va te faire à manger, si elle va te nettoyer tes caleçons sales. Va.
C'est pas possible.
Moi, je suis né à Aix. Après, j'ai bougé. Là, je suis à l'Estac. J'étais à la ZUP de Aix à un moment, vers la Gare Routière. J'ai été vers Corcy. J'étais vers l'Estac, vers Frévalon pendant un moment. J'ai bougé un peu partout dans Marseille. Et moi, je suis parti de la maison, j'avais 16 ans. Et voilà, j'ai beaucoup bougé en fait.
T'es indépendant à 16 ans?
Ouais. J'avais pris un appart à 16 ans, ouais.
Alors, au conflit ou quoi?
Ouais, c'était plus un besoin. Je suis hyperactif, moi. J'ai besoin de bouger, en fait. J'ai besoin de faire des trucs, j'avais besoin de faire mes trucs et tout. Jamais manqué de rien. J'ai toujours eu ce qu'il fallait, mais j'ai toujours eu besoin de bouger, de faire les choses moi-même.
Et quoi? Et donc au final, t'as fait combien de clips?
Ouais, j'ai comme Desch, j'ai dû faire les 150, j'ai dû les faire même plus. Mais on a commencé avec des clips à 150 euros. Il y avait des gens de toute la France qui nous envoyaient des messages. Ouais, pour Valence, viens, j'ai 150 euros. Nous, on montait en voiture. Le prix de l'essence, ça nous coûtait le prix du clip. Mais on était contents, on apprenait. Du coup, Soso Maness, il voulait tourner le deuxième épisode de sa série. On s'est mis en contact par rapport à Bitbank, tout ça, qui nous ont mis en contact. Ils ont dit, regarde, les jeunes, ils commencent à se développer dans ça, ils ont fait. Et du coup, on a pu commencer à faire l'épisode 2, où on a bossé avec Sony Music, où on a eu un autre plus gros budget à l'époque, qui nous a permis de commencer à pouvoir louer des objectifs un peu différents, de pouvoir... ça reste du budget, c'était pas un budget, c'était un tout petit budget pour un court-métrage en vrai. Mais pour nous, ça commençait à être sérieux.
Pourquoi tu as fait ça? Hein?
Tu vas faire quoi? Tu vas me faire comme tu as fait Malik? Tu vas m'utiliser comme lui? Hein? Hein? Tu l'as envoyé à la mort? Tu vas me faire pareil, c'est ça que tu veux? Tu crois ça, toi?
Série à l'aube de Soso Maness.
C'est grave, hein? Malik, ce qu'il a fait devant mes yeux, jamais je vais l'oublier. Et s'il avait été là, il t'aurait déjà mis une balle dans la tête. Alors laisse Malik où il est.
Pourquoi les rappeurs font des séries sur YouTube?
Soso, en fait, il avait des choses à raconter. Il avait des choses à raconter autrement que dans sa musique. Il avait des choses à raconter, des scènes, en fait. Des fois, il y a des scènes que tu as vues, que tu as vécues, que tu as envie de mettre à l'écran et que tu peux les raconter dans une musique qui ne sera pas aussi fort que si tu les mettais à l'écran. Lui vient d'un quartier où s'est passé beaucoup de choses, même s'il se passe beaucoup de choses à Marseille. Mais lui, il avait beaucoup de choses à raconter. Et je pense que ça lui tenait à cœur de le raconter visuellement. Et du coup, ils ont fait ça. À la base, le premier épisode qu'ils ont fait, c'était pas une série, c'était un court-métrage qu'ils ont voulu faire comme ça pour finir la promo de l'album. Ils ont dit, viens, on fait un court-métrage. Ils l'ont tourné, il n'y avait pas spécialement de... C'était un peu social réel, mais c'était pas non plus... C'était pas défini. Il y avait un chef-op qui était un peu réel, un producteur un peu réel. C'était tout le monde qui était dans la même énergie, mais il n'y avait pas de rôle défini comme un vrai court-métrage. Et c'était vraiment la street, quoi. C'était comme ce qu'on fait, nous. Et dans le 2, nous, on est intervenu. Et après, les budgets, ils ont fait que monter du 3 au 4. Et à chaque fois, ça montait. Et on essaie de se professionnaliser, d'augmenter vraiment les équipes, d'avoir des régies carrées. Ça ressemble à une vraie prod de...
Voilà la progression à chaque épisode.
Voilà, c'était le but. C'était le but, c'est que ça fasse commenter. Là, on est dans un village, ce qu'on peut appeler un village de containers. On est à l'Estac. C'est en gros un gros terrain où il y a des centaines ou des milliers de containers superposés. Et on stocke beaucoup de tout ce qu'on a pu utiliser dans des films, dans des clips auparavant.
Là, tu vas avoir les tenues de police, tu vois. Les tenues de police, des fumigènes, là, c'est les ballots, valises marocaines, tu vois. Là, t'as plein d'armes.
C'est des faux.
Ouais, il y a des faux, il y a des démilitarisés aussi. En fait, on avait stocké là les machines à billets, tu vois. Machines à billets, les balances, les pesettes, les cochons, tu vois. Soit c'est de la pâte de date, soit c'est de l'argile, généralement, tu vois. Parce que ça n'est plus réaliste. Après...
C'est un jouet, ça.
Ouais, je la prendrai pas avec mes mains, sans les gants, sinon. Sinon, je la prendrai pas comme ça, à pleine main, je ramènerai pas France Culture, voilà. Voir ça, mais... Après, il y a plein de pistolets, de revolvers. Tu vois, tout ça, c'est des modèles que tu peux beaucoup retrouver dans les saisies, tout ça, qui sont beaucoup utilisés dans la rue. Ça, c'est l'épisode de la série Truc de Manès. C'est que des bonbonnes.
Ah ouais.
Tu vois, on a... Tu vois, des bonbonnes de ballon. Dans mon film, il y a une scène qui parle de ça. C'est un vrai problème à Marseille, ça. Ça, tu vas à l'Estac, ou n'importe quel endroit où tu vois Marseille, tu as une belle vue. Tu vas un jeudi, tu vas avoir 2-3 bonbonnes par terre, tu reviens le vendredi matin, tu en vois 50, tu reviens le samedi, tu en vois 100. Sans mentir, hein. Tu vas à Corbière, tout ça. Tu vois, c'est du gaz, c'est je sais pas, comme un protoxyde d'azote ou je sais plus ce que c'est. Ça, c'est du gaz hilarant, tu vois. Ça te fait rougir la tête, ça te fait avoir des paralysies. C'est la nouvelle drogue. C'est comme le shit maintenant. Tu vois, c'est un truc, c'est en vente libre. Le ballon, je pense, c'est responsable des 30% des accidents de la route, de ce que tu peux trouver à Marseille. C'est un truc de fou. En fait, c'est beau, tu peux tourner des trucs. Tu vois, t'as les containers, t'as la colline juste derrière, t'as la mer à gauche. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tournages dans des endroits comme ça. Nous, ça nous est déjà arrivé qu'on arrive sur des lieux de tournage et que l'histoire était censée se passer, par exemple, dans ce bâtiment, mais que le jour même, il y avait une personne qui s'était fait tuer devant ce bâtiment. Et nous, la scène qu'on doit faire, c'est une scène où il y a 3 voitures qui arrivent, tout le monde armé. C'est compliqué, tu vois, vis-à-vis des familles. Du coup, tu annules le tournage, tu bloques, tu vas aux prières, aux enterrements, tu vois, tu soutiens, tu essaies de dissocier la vraie vie et le travail, la fiction, tu vois. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois. Ou des gens qui ont tourné avec nous, qui décèdent juste après, qui ont encore leurs images dans le clip, tu vois. Il y en a, c'est pour qui c'est des souvenirs, les clips, hein. Il y en a où tu vois des têtes que tu vois des gens qui sont à côté, tous les deux, tu les verras plus jamais à côté tous les deux parce que soit ils se font la guerre, soit il y en a un qui est mort, soit les deux sont morts. Tu vois, c'est les clips, c'est aussi un moyen c'est des boîtes à souvenirs, tu vois. Donc tu vois l'évolution aussi en regardant les clips selon les années, tu vois, les têtes qui changent et tout. Et moi, suite à ça, j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle Saint-Laurent, mon premier vrai court-métrage avec Iti Razougli, qui joue un second rôle dans Sherazade, qui joue le rôle de Riyad, et qui après a joué avec Matt Damon dans Stillwater, qui a joué dans Bac Nord, qui a joué dans Pax Massilia, qui a joué dans Diamant Brut cette année, qui a été à Cannes, et qui est un acteur incroyable.
qui est un naturel à l'écran que moi j'ai vu nulle part ailleurs encore. Mais l'étape d'après, là où j'étais bloqué, c'est une fois que t'as ton court-métrage, qu'est-ce que t'en fais? Et moi je savais pas. Donc on m'a dit, ouais, fais des festivals. Mais moi je connais pas, je sais pas comment, quels festivals, quels sont bien, quels sont pas bien. Donc t'en envoies dans 10, tu vois que les 10 ils te prennent pas. Tu dis, mon film il est nul. Et t'arrêtes. Et du coup, le film, j'en ai rien fait depuis. Il a fini, après on l'a diffusé sur Arte, peut-être 5 ans après. On l'a envoyé, on a été repéré après, quelques temps après. Mais je l'ai gardé. Un concours. En fait, j'ai soumis moi le concours parce que j'ai dit, bon, je vais rien en faire, je vais jamais le sortir. J'ai proposé, j'ai envoyé des mails, j'ai jamais eu de réponse.
T'as vu ou pas, je viens de l'acheter. Et tu?
C'est quoi ça?
C'est un T-Max, tu vois pas?
Quand tu m'as dit, je viens de chercher, je croyais que c'était en voiture.
Mais ça va, sérieux, ça, c'est mieux qu'une voiture, ça. Allez, viens, monte.
Et le deuxième casque, il est où du coup?
Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pris. Mais c'est rien, on va juste là.
Donc toi t'as un casque et moi j'ai pas de casque.
Et donc?
Et donc je vais pas monter là-dessus sans casque. En plus c'est toi qui conduis, c'est mort en fait.
Mais ils vont rien tout dire.
C'est mort, des... vas-y, je me casse.
Attends, viens.
Quand t'as pas d'accompagnement, en fait, c'est très très difficile de. Très très difficile de savoir quoi faire en fait. Parce que YouTube, pour moi, c'était. On a envoyé énormément de choses sur YouTube. La série de Sosomanes ou encore d'autres courts-métrages qu'on a fait, la série, tout ça. Même si on a fait 100 000 vues, ma première série, elle avait fait 100 000 vues. Mais ça apporte rien, à part des commentaires de gens du grand public, ni argent. Si personne t'aiguille, tu sais pas où aller en fait. Tu sais pas quoi faire de ton film. Il reste dans un disque dur. T'as dépensé 7 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Au final, personne le voit. En fait, c'est JB Marlin, quand j'ai parlé avec lui 3-4 ans après, il m'a dit, mais tiens, fou. Il m'a dit, en fait, il faut envoyer à 600, 700 festivals, 1000 festivals. Là, tu pourras juger si ton film il est pris. Je dis, ah ouais, mais je savais même pas qu'il y avait 1000 festivals. Parce que nous, on est vraiment dans la musique. Ça veut dire on a les codes de la musique, mais les codes du cinéma, ils sont. Ah, je vais pas dire ils sont opaques, mais c'est difficile de comprendre si t'as pas des personnes qui t'expliquent autour d'un café. Ouais, regarde, c'est comme ça. Moi, je suis passé par là, faut que tu parles avec lui, il y a telle loi qui a été votée, ça se passe comme ça. Si t'as pas ces codes-là, c'est trouvable nulle part. Et moi, j'ai beaucoup vu des gens qui ont eu pour rêve de faire des films, qui ont essayé pendant 10 ans, qui n'ont jamais réussi. Et que maintenant, ils sont chauffeurs-livreurs et qui font autre chose. Et moi, c'est pour ça que j'essaie de pas ne pas finir comme ça. Tout sauf d'une ronde, Belzins, Rick Dan.
Alors, Mourad, c'est Mourad Tarboussata, c'est un acteur. Qu'on a plus à présenter à Marseille, qui est comme un grand frère pour moi. C'est un des premiers qui m'a un peu ouvert les portes du cinéma. C'est une des premières personnes avec qui j'ai pu parler, qui avait vraiment déjà mis un pied dans le cinéma, qui avait monté les marches de Cannes. Et on a été présenté par un ami commun. Et je lui avais proposé un scénario à l'époque pour mon premier projet de long métrage en tant que rôle principal. Et il avait accepté tout de suite. On s'était rencontrés à l'opéra et depuis on ne s'est jamais lâché. Il est quasiment dans tous nos projets, que ce soit dans les phases d'écriture, on peut se retrouver chez lui à essayer de faire des ping-pong, ou ça peut être en tant qu'acteur, en tant que. Il a donné des coups de main surtout.
Mourad Boussata.
Donc je joue le personnage d'Amine, un ancien copain du personnage de Soso qui après des années donc se retrouve et vient un peu, on va dire, l'aider dans son business, mais il se passe plein de choses. Et il faut voir l'épisode 3 et 4 pour savoir ce qu'il en est. Et Inch'Allah, bientôt, on fera aussi le 5 pour répondre à la question de tout le monde. C'est quand le prochain épisode? C'est Inch'Allah, bientôt.
Et on t'a vu aussi dans beaucoup de web-séries marseillaises. Tu peux parler un petit peu de l'activité à Marseille, ça?
On a de la chance à Marseille d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens motivés, beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens qui se prétendent vouloir devenir réalisateurs, etc. Et ce qui donne l'occasion à plein de gens de s'essayer. Et c'est vrai, quoi, on a pas mal de web-séries marseillaises qui se sont faites, qui sont plus ou moins connues. J'ai Camar Zéro qui me vient en tête, les Dégains, les Secpa qui nous ont fait des choses qui sont arrivées même jusqu'au cinéma. Marsiglia qui fait un travail remarquable et qui aujourd'hui, là, d'ailleurs, ils ont produit quelque chose là, il n'y a pas si longtemps. Ils ont fait un truc qui n'est pas encore sorti, mais qui... Voilà, ils essaient vraiment de faire des choses intéressantes et de plus en plus poussées. Et surtout, on voit une évolution. Mais en tout cas, ouais, on a un gros terreau de comédiens, de créativité audiovisuelle à Marseille.
Chaque année, il y a quelques nouvelles séries.
Exactement.
Et Mourad, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait partie des acteurs comme Moussa Maskri, qui vont jouer dans des films que tu peux voir à Cannes, qui vont jouer dans des séries, qui vont tourner pour des grands réals. mais qui aussi ils tendent la main à des plus jeunes générations. Et en fait, tant que le projet lui parle, et même si c'est pour soutenir, il va le faire.
C'est le caractère des Marseillais en général. On ne va pas attendre après le gouvernement, après les subventions, après ton grand-père, ton oncle, je ne sais pas quoi. On y va. Et on n'est pas là à attendre que les Parisiens viennent nous donner des miettes.
Ah, pas une question, en fait. Comment tu peux me retrouver tout le temps en 5 minutes ? En 5 minutes, tu mets 5 minutes pour me retrouver à chaque fois, mais tout le monde me cherche, personne ne me trouve. Il n'y a que toi. Comment tu fais ? Explique-moi.
C'est pas compliqué. Je suis le mec que tu as escroqué ou que tu as banané. Ouais. Et qui vient me casser les couilles à la maison. Ouais. Après, je me fais une équation, vite fait, comme ça.
Je les trouve, c'est pas compliqué. Ouais.
Hein, après. Tu sais quoi, mon fils, le pire dans tout ça?
Oui, dis-moi. Dis-moi.
Tu m'as filé des faux billets, tu crois que je les ai pas vus?
Non.
Hein, tu crois que j'ai pas vu?
Non.
Websérie Kamar Zero de Haroun Bilal, 2021.
Du coup, une fois que j'ai fait mon deuxième court-métrage, Des Feux sans fumée, moi, j'ai toujours eu à cœur de faire, de mélanger vraiment le réalisme qu'on peut avoir dans la rue.
Folio Ibora.
Que ce soit vraiment, quand je disais, ouais, c'est une scène que je pourrais voir vraiment, que ce soit dans un quartier à Marseille ou peu importe. Et le fantastique, moi, ça a toujours été, j'ai toujours aimé à mettre une petite touche de fantastique dans les histoires que j'essaie de raconter. J'ai écrit mon premier long qui s'appelle Microbe. C'est l'histoire d'un enfant de 7 ans qui, après, est sorti de l'école, il tombe sur une émission à la télé où il parle du plus gros paquebot du monde qui doit traverser le monde pour arriver aux Caraïbes. Et avec leurs collègues, ils décident de fuguer. En gros, c'est l'histoire d'un enfant de 7 ans qui fugue, qui traverse Marseille sur une seule nuit, sous la neige. Et c'est un peu un conte un peu fantastique, un peu dramatique. Et du coup, c'est un film qu'on a fait 100% indépendant, tout de ma poche. C'était, j'avais un petit peu, j'ai appelé des amis à moi. Passe-moi temps. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et j'ai de la chance d'avoir des amis comme ça qui soient proches, dévoués, qui répondent présents à l'appel. Du coup, on l'a tourné sur 17 nuits dans Marseille avec une Alexa, avec une vraie équipe. Et on a fait un film qui aurait dû coûter 1 million d'euros si on était passé par les circuits normaux. Et on l'a fait du mieux possible et ça nous a coûté beaucoup moins cher. Ça a quand même coûté une grosse somme pour un jeune comme moi. Mais en soi, je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait. Et ça m'a permis d'apprendre énormément et surtout de dire, voilà, j'ai fait mon premier film en indépendant. Et j'espère que ça va continuer.
Merci à Marcia Romano, Benoît Sabatier, Stéphane Signoret, Julio Ibora, Tesh, Mourad Boussata. Chargé de programme Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination Johanna Bedeau, Emmanuel Laurentin. Renouveau du cinéma marseillais, Massilia Guérilla. Épisode 3, en bande organisée. Une série de Pascal Tessot et Gaël Gilon. Prise de son, Julien Girard. Mixage, Manon Houssin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.